C'est bon, je pense, Boris. Tu me rappelles que je dois l'arrêter à la fin. Merci, c'est gentil. Je suis un fan des films britanniques. Je suis désolé pour ça, mes amis. Ça, c'est une de mes fautes de préférer toujours un peu des films dans ma langue natale. Et l'un des films que j'ai beaucoup apprécié ces 10 dernières années, j'ai revu cela récemment, c'est le film Le Discours d'un roi. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y avait Colin Firth, c'est un des comédiens assez reconnus qui a gagné un Oscar pour ce film. Et lui joue le rôle du roi. À ce moment-là, il était le prince Albert. Il est devenu par la suite le roi George VI, je crois. James, tu me corriges pour ça. Même si James est irlandais, je pense qu'il connaît mieux la royauté anglaise que moi. Et c'est le roi, ce prince Albert, dans le film, il est bègue. Alors il parle comme ça. Parce qu'il était super nerveux, il n'a pas eu une enfance facile. On pense que son père, le roi George V, était un peu disciplinaire, etc. avec lui. Apparemment, cela joue un rôle pour ceux qui sont bègues au début de leur parcours. Mais pour résoudre son problème, pour travailler sa difficulté, vu qu'il est sur le point de devenir roi, parce que son frère, lui, fait des bêtises, on va dire ça comme ça, il doit trouver quelqu'un qui pourrait l'aider. Et pour trouver quelqu'un, son épouse prend rendez-vous avec un logopède un peu non conventionnel, un Australien, Lionel, j'oublie son nom, enfin, Lionel quelque chose. Et cette personne a été recommandée à l'épouse du prince Albert. Donc il y va, et tout le film, c'est un discours entre le logopède et le prince Albert dans l'ensemble des événements qui sont en train d'avoir lieu juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais le portrait de ces deux hommes, un qui est australien, qui est commun, et l'autre qui est britannique et qui est le roi, ou à devenir le roi, c'est très bien fait. Il y avait un moment au début du film, de l'histoire, où le logopède fait un pari avec le prince Albert. Le prince Albert, lui, grincheux, dit « Il n'y a pas de possibilité que j'arrive à parler comme il faut, tu n'arriveras jamais à changer quoi que ce soit chez moi. » Et il lui dit « Je te fais un pari d'un shilling. » Un shilling, c'était une pièce de monnaie à l'époque, comme un livre ou un euro. Il dit « Si à la fin de cette première rencontre, tu n'arrives pas à parler sans faire comme ça, alors je te donne un shilling. » Super, facile, dit le prince. Et tu, alors, me donneras, moi, un shilling si ce n'est pas le cas. Alors, le logopède lui dit, juste un moment avant de commencer, mais est-ce que si moi je gagne, tu serais en mesure de me rembourser? Le prince, ah ben, bien sûr, il serait en mesure de me rembourser. Pourtant, les membres de la famille royale, portaient jamais de l'argent sur eux. Ils n'avaient pas de portefeuille, ils n'avaient pas de carte bancaire, ils n'avaient pas de liquide. Tout a été payé pour. Et donc, le père savait bien ça. Il a dit, bah, écoute, si moi je gagne, tu ne serais pas en mesure de me donner quoi que ce soit. Et on voit le prince Albert se rendre compte de cette réalité. C'était l'une de ses premières rencontres avec une personne normale, égaux de lui, dans ce milieu de le père. Et il se rend compte à ce moment-là d'à quel point il est différent des autres, à quel point sa vie jusque-là ne ressemble aucunement à une vie normale, à quel point, si vous voulez, il est privilégié, ignoré, il habitait comme il était dans toute cette splendeur, et il ne se rendait pas compte d'à quel point il était privilégié. Et donc, tout ça comme introduction pour nous, de nous sensibiliser au fait que peut-être, il ne sait pas, que nous sommes là ce matin, chrétiens, c'est bien d'être chrétien, oui, c'est sympa cette église, peut-être vous trouvez ça sympa, c'est bien. C'est chouette, mais bon, la vie continue, ça fait une petite partie de qui suis-je, d'être chrétien, d'appartenir à cette église, il y a beaucoup d'autres choses plus importantes que ça dans ma vie, vous savez. Et si ça c'est votre regard actuel de la vie chrétienne et de la foi chrétienne, nous devons apprendre à quel point nous sommes privilégiés. Si on se dit chrétien, uni à Christ par la foi aujourd'hui, cela c'est le privilège le plus important, le plus grand qu'on peut connaître dans cette vie. Et parfois, bien sûr, ça, je me lève, j'ai une mauvaise nuit, je n'ai pas bien dormi, je ne suis peut-être pas conscient 24 heures sur 24 à quel point je suis privilégié. Mais si je veux persévérer dans la foi chrétienne, je dois être conscient à quel point ce que j'ai en Jésus-Christ vaut ma vie, vaut le monde entier, comme disait Jésus lui-même. Et l'un de nos objectifs, donc aujourd'hui pour nous, c'est de nous aider à comprendre à quel point nous sommes privilégiés. Parce que chose inquiétante, c'est vrai qu'il y a du va-et-vient parmi les soi-disant chrétiens, ceux qui s'engagent pour un peu et puis après un temps, ils lâchent. Peut-être vous connaissez quelques personnes dans votre propre histoire pour qui cela est le cas. J'ai parlé il n'y a pas longtemps à quelqu'un qui a 3 enfants élevé dans un foyer chrétien. Apparemment, après un temps, il commençait à se dire, l'Église les ennuyait. La foi chrétienne, il ne voyait pas trop de rapport avec leur vie de tous les jours. Et sans avoir totalement lâché la foi, ses enfants ne venaient plus qu'une fois par mois au culte. Ça devenait pour eux plutôt juste un rite, un truc religieux qu'il fallait faire. Et si ça devient rien qu'un truc religieux qu'il faut faire, à un moment donné, on va dire, pourquoi je fais tout cet effort pour ça? C'est peu intéressant, c'est peu important à un moment donné. Il y a d'autres peut-être qui viennent au culte comme une habitude. Et ils se disent, mais j'aurais pu être ailleurs, vous savez. Mais bon, mon habitude, c'est d'être ici. J'aurais pu être né dans une famille musulmane, bouddhiste, etc. Mais bon, pour moi, c'est plutôt chrétien. Et donc, comme c'est l'habitude de la famille, c'est ça, je m'adhère à cela. À un moment donné de nouveau, si ce n'est qu'une habitude, lorsque la difficulté vient, lorsque on trouve ça peu intéressant pour nous, on va chercher ailleurs. On va chercher ailleurs. Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit son épître afin que des chrétiens qui sont jeunes dans la foi, on a vu ça en lisant quelques versets hier, qui viennent d'un arrière-plan juif, que eux, ils ne lâchent pas la foi en Christ en revenant en arrière vers ce système religieux juif, mosaïque, la loi de Moïse. Avec le temple, avec les prêtres lévitiques, avec les sacrifices, avec les rituels, avec tout ce qui est visuel, assez tangible pour eux, ils l'ont laissé pour Jésus-Christ, pour suivre Jésus-Christ. Et maintenant, apparemment, ils commencent, suppression de la part des autres, de se dire, est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt revenir en arrière? Et c'est écrit dans ce livre pour que cela n'arrive pas. Chapitre 2, verset 1, pour que nous ne soyons pas emportés loin des choses que nous avons entendues. Si nous faisons cela, chapitre 2, toujours verset 3, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Notre tentation, ce n'est pas de tomber de la même manière, je pense, je suppose. Je pense qu'on n'a aucune personne ici d'arrière-plan juif qui est tentée de retomber dans le judaïsme. Mais toutefois, nous sommes naïfs et nous ne pensons pas que nous courons le danger de lâcher la foi chrétienne. Peut-être c'est les circonstances difficiles, c'est peut-être simplement le constat que le monde à l'extérieur de notre petit milieu évangélique à Wallouis-Saint-Lambert, dans notre église, que ce monde semble être très heureux pour la plus grosse partie. Semble réussir, semble ne pas être préoccupé par Dieu, par la grâce, semble être capable de s'amuser, aller au cinéma, manger avec des amis, faire le nécessaire pour avancer dans la carrière. Et vous vous dites, mais moi j'ai fait ce pas de la foi chrétienne, et, mais je vois toutes ces personnes, soi-disant, heureuses. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Et si ça commence à être un défi peu intéressant, peut-être le culte, si je commence à devoir souffrir pour ma foi, peut-être à ce moment-là, je dis, mais écoute, je préfère être comme les autres, comme Samuel avait dit. Dans le temps, j'entends Samuel un peu moins dire ceci ces dernières années, mais dans le temps, il félicitait les uns les autres de se mettre debout pour être là le dimanche matin. Il disait, le monde dort, mais vous avez fait l'effort de vous lever. Bravo, c'est une bonne chose. Mais de temps en temps, peut-être on a la réflexion, mais ça serait bien de dormir comme les autres, n'est-ce pas? Pourquoi autant d'efforts dans la foi chrétienne? Donc, nous avons besoin d'être fortifiés dans la grâce de Dieu pour être conscients de la richesse du privilège qui est le nôtre en Jésus-Christ. Il se peut, j'ai eu cette conversation juste cette semaine avec quelqu'un d'autre, il se peut que vous dites, ouais, écoute, à l'époque de Jésus, ça, cela aurait été intéressant. J'aurais eu Jésus lui-même avec moi. Alors, si vous voulez juste réfléchir deux secondes avec moi ici là-dessus, Luc 24, peut-être vous connaissez ceci, c'est, on est après Pâques, après tout, c'est la semaine après Pâques, n'est-ce pas? C'est le dimanche d'après Pâques, donc c'est à peu près à ce moment-ci dans l'histoire que Jésus croisait ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il entretient avec eux, et que dit-il au verset 26? Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire? Donc c'est Jésus, à ce moment-là inconnu à ses deux disciples, qui explique à ses deux disciples que lui, il devait mourir. Et puis il dit verset 27, « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. » Nous suivons notre attention à ça, c'est dire, oh, cela aurait été magnifique à ce moment-là, n'est-ce pas? D'avoir Jésus lui-même avec nous, un entretien presque un à un, il prend ça, et il dit, il prend ça, c'est-à-dire la partie de l'Ancien Testament, et il dit, alors maintenant mes amis, on va faire un sermon de l'air ensemble, vous allez comprendre comment est-ce que tout ça parle à moi, de moi. Oh oui, ça, cela n'aurait pas été fatigante, difficile, mais intéressante, interpellante, parce que j'aurais eu Jésus lui-même avec moi à ce moment-là. J'aurais pu vraiment être fortifié dans la foi. J'aurais pu à ce moment-là vraiment avoir des convictions profondes pour persévérer avec Jésus comme les disciples ont pu bénéficier. Alors, vous savez, c'est que vous pouvez vous-même avoir exactement, même plus d'informations de la part de Jésus que ces deux disciples-là. Pourquoi? Parce que cela, cette conversation qui a eu lieu au Luc 24, et ensuite avec d'autres disciples et d'autres apôtres dans les 40 jours avant que Jésus soit monté, tout cela, toute cette réflexion-là, plus que simplement l'entretien avec les deux disciples, se trouve aujourd'hui, ici, dans la partie du Nouveau Testament. Donc, le Nouveau Testament que nous avons, c'est le fruit de la réflexion des apôtres suite à leur entretien avec Jésus, qui a ouvert les yeux à quel point toutes les Écritures mènent à Jésus-Christ. Et donc, si nous voulons avoir la même passion, la même joie, la même conviction solide que Jésus vaut la peine par rapport à tout ce qui précédait, nous n'avons que un lire le Nouveau Testament. Et donc, si vous avez l'impression que, oh non, lire la Bible, c'est trop sec, c'est trop cérébral, c'est pas assez vivant, c'est pas Jésus, vous trompez. Peut-être, ça c'est possible, peut-être on vous explique parfois mal et de manière ennuyante le contenu du Nouveau Testament. Mais nous, collectivement, les les chrétiens, nous devons avoir cette réflexion que c'est le Nouveau Testament qui m'explique de la part de Jésus lui-même à travers ses apôtres à quel point cette foi chrétienne dépasse en tout ce qui précédait avant, pour que nous puissions dire je reste alors attaché à Jésus-Christ, quoi que cela me coûte, quoi que les autres disent de moi. Donc là, maintenant, nous allons lire Hébreux chapitre 8. Tout ça, c'était une guise d'introduction. Pour que nous disions dans un sens, ici, c'est Jésus qui nous parle. C'est le fruit de la conversation de Jésus avec les disciples que maintenant, nous pouvons bénéficier de cela. Cette réflexion qui dit comment l'Ancien Testament nous mène à Jésus-Christ. Donc, on est prêts? On y va. J'avais demandé à quelqu'un de m'apporter un peu un verre. Ah, super, super, merci. Je tousse toujours un petit peu, donc ça permet de... Merci. Ok, Hébreux chapitre 8, verset 1. On va faire tout le chapitre 8 ce matin. Or, voici le point capital de ce que nous disons. Nous avons un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. Il est au service du sanctuaire et de la tente véritable, celle qui a été dressée par le Seigneur, et non pas un être humain. En effet, tout grand prêtre est institué pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où la nécessité pour lui aussi d'avoir quelque chose à présenter. Or, s'il était sur la terre, s'il était sur la terre, il ne serait même pas prêtre, puisqu'il y en a d'autres qui présentent des offrandes selon la loi. Ceux-ci célèbrent le culte dans une copie et une ombre des choses célestes, ainsi que Moïse en fut divinement averti alors qu'il allait réaliser la tente. Regarde, dit-il, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a accédé à un service d'autant plus remarquable qu'il est médiateur d'une alliance supérieure, fondée sur des promesses supérieures. Si, en effet, la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une seconde. C'est bien, en effet, comme un reproche à leur adresse qui dit « Les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda, une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai faite avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Puisque eux-mêmes ne sont pas demeurés dans mon alliance, moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Or, voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur intelligence. Je les inscrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'instruira plus jamais son concitoyen, ni personne son frère, en disant « Connais le Seigneur !» En effet, tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Je leur ferai grâce de leurs injustices. Je ne me souviendrai plus. Je plus jamais de leur péché. En appelant nouvelle, il a rendu ancienne la première. Or, ce qui est ancien est vieilli et en passe de disparaître. Donc maintenant, dans ce chapitre 8, nous avons une comparaison, n'est-ce pas, entre l'ancien système qui vient de Moïse, de la loi de Moïse, et le nouveau système en Christ. Et vous avez entendu que le nouveau système est bien supérieur à tout ce qui précédait. Pourquoi cela? Alors, je vais vous donner deux points ce matin. Alors, le premier point, c'est là sur notre feuille, ne lâchons pas, car Jésus exerce un sacerdoce supérieur. Sacerdoce, c'est le mot technique pour un prêtre. Quel est le ministère que le prêtre offre? Et le ministère que Jésus offre est supérieur au service offert sous l'ancienne alliance. Sous l'ancienne alliance. Or, voici le point capital, verset 1, de ce que nous disons. Nous avons un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. Donc, Jésus-Christ, notre grand prêtre, a terminé son travail en tant que sacrificateur. Il s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. Son travail est terminé. Mais qu'en est-il du lieu de son ministère, son service, en tant que grand prêtre? Verset 2, il est au service du sanctuaire et de la tente véritable, celle qui a été dressée par le Seigneur et non pas par un être humain. Alors là, il fait allusion au tabernacle, cette grande tente montée dans le désert au temps de Moïse. Vous vous souvenez de cela, sûrement. Moïse devait mettre tout cela en ordre selon les instructions qu'il a reçues du Seigneur. Et c'était là au tabernacle, les Lévites, les prêtres institués par le Seigneur, étaient eux au service. Et Jésus, dit notre auteur, au lieu d'être au service, lui, au tabernacle, dans le tabernacle, il est au service du sanctuaire et de la tente véritable. Dans l'ancienne tente, alors, préfigurée. Il continue, verset 3. En effet, tout grand prêtre est institué pour présenter des offrandes et des sacrifices. D'où la nécessité, il réfléchit, vous voyez, pour lui aussi et pour Jésus aussi, d'avoir quelque chose à présenter. Il avait quelque chose, lui, à offrir Jésus. Il s'agit, bien sûr, de lui-même, son sacrifice. L'auteur y reviendra cet après-midi lorsqu'on traite le chapitre 9. Mais ce qui le préoccupe ici, c'est le lieu de son ministère. Verset 4. Or, s'il était sur la terre, il ne serait même pas prêtre, puisqu'il y en a d'autres qui présentent des offrandes selon la loi. Oui, la loi de Moïse exigeait que les prêtres soient de la tribu de Lévi. Mais Jésus, il n'est pas de son don de Lévi, il est de la tribu de Judas. Et donc, si son sacerdoce, son ministère était sur terre, il ne serait même pas prêtre. Non, le sacerdoce, toutefois, de Jésus, est supérieur au sacerdoce de ses prêtres lévitiques. Ceux-ci, verset 5, célèbrent le culte dans une copie et une ombre des choses célestes, ainsi que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait réaliser la tente. Regarde, dit-il, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc oui, dit-il, le tabernacle, impressionnant qu'il était, pour finir, n'était qu'une copie, une ombre des choses célestes, réelles, derrière, qu'on ne voyait pas à ce moment-là. Car lorsque Moïse a reçu des instructions pour la construction, on lui a montré un modèle. Voici ce que vous devez faire. Donc, il avait fait selon le modèle. Le modèle d'une réalité céleste. Dans le vrai sanctuaire, qu'on soit clair là-dessus, ce n'est pas ce sanctuaire dans l'ancien système, tabernacle et ensuite le temple. Là où Dieu habite réellement, là où Dieu est présent dans toute sa sainteté, dans toute sa plénitude, ce n'est pas ici dans l'ancien système, c'est en haut, dans les cieux. C'est là où il est, notre Dieu. Et donc, est-ce que vous voyez la portée ici de ce qu'il dit? Le tabernacle, le temple, la loi de Moïse, le sacerdoce, le ministère des prêtres lévitiques, tout cela, dans son temps, nous dit notre auteur, avait son utilité. C'était important pour le peuple de Dieu de l'ancienne alliance. Cela venait de Dieu, c'était pour leur instruction, c'était pour l'édification de chacun. Mais ce n'était pas le but ultime de ce que Dieu avait prévu. Petite illustration à ce stade. Vous savez, avant un match de foot, parce qu'on a quelques amateurs de foot ici, ou un autre sport, les joueurs se mettent sur le terrain pour se réchauffer. Parce que vous avez insisté à ça, parfois vous ne voyez pas sur l'écran si vous avez ça à la télé. Mais si vous allez dans un stade, vous êtes là une demi-heure avant, alors souvent vous voyez les joueurs de manière assez sympathique en train de s'échauffer, de faire quelques trucs avec le ballon. Ça c'est impressionnant, c'est sympa. Quelques essais, si c'est du rugby, quelques petites astuces pour démontrer leur habilité pour le jeu. Cela suscite, si vous voulez, déjà, de la part des spectateurs, un peu d'adoration, je dirais. Oh, c'est super ce qu'ils font. Mais ce n'est pas encore le match. Le match est encore à venir, après. Imaginons qu'on est là, au stade, on assiste à ce réchauffement, et à la fin du réchauffement, tous les joueurs quittent le stade. Et nous, les spectateurs, on dit, oh, magnifique, n'est-ce pas? Rendez-vous la semaine prochaine. Ce serait bizarre de faire ainsi. Mais ce serait bizarre de rester avec l'ancien système de tabernacle et temple, parce que pour finir, nous dit cet auteur, le système lévitique n'est que le réchauffement. Un avant-goût de quelque chose de bien supérieur. Une entrée, si vous voulez, non pas le plat principal. Une ombre, et non pas la réalité. Et je pense que nous devons peser ceci, parce que nous devons nous rappeler que ceux qui ont reçu cette lettre, ceux d'arrière-plan juif, eux, bien sûr, ils trouvaient de vue l'ancien système impressionnant à voir. Ce qui est visuel continue, je pense, à attirer l'attention des uns et des autres. C'est facile de se dire, ah, il semble là avoir quelque chose d'important. Je me souviens de mon oncle non-croyant, qui lui était non-croyant bien réfléchi. Et une fois, il assistait à un culte dans une cathédrale, parce que c'était un homme assez important, on lui invitait à un truc dans une cathédrale. Et il m'a dit ceci, il dit, Steve, là pour une fois, j'ai ressenti quelque chose. Plaise au Seigneur qu'il a ressenti quelque chose parce que quelqu'un lui a ouvert la Bible et a expliqué le message de Christ, mais ce n'était pas ça. Il a ressenti quelque chose parce que de vue, c'était impressionnant. Je ne sais pas si vous dites, allez de temps en temps dans une grande cathédrale. Ou peut-être dans une salle de spectacle où c'est rempli, où on chante avec une qualité inouïe. À ce moment-là, c'est impressionnant. On ressent quelque chose. Donc, avant de trop vite critiquer ces juifs, ces chrétiens de la République qui cherchent à revenir en arrière parce que c'était plus tangible, plus visuel, rappelons-nous que nous aussi, parfois, nous restons attirés par ce qui semble être impressionnant. Il se peut que ce n'est pas dans le domaine forcément chrétien où nous sommes interpellés. Peut-être c'est plutôt aujourd'hui dans le domaine de l'environnement. À ce stade, je vais faire une pub juste au milieu de ceci, parce que je vois que Samuel il donne une conférence sur le climat, la planète et la foi, qui serait intéressant à la rue de Moniteur, samedi 11 mai, donc d'ici 15 jours. Donc si cela vous interpelle, on vous invite là-bas. On va peut-être faire une annonce plus tard. Mais c'est important parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment à la mode d'offrir des sacrifices un peu environnementaux, si je pourrais le dire. Planter des arbres, acheter des panneaux solaires, ce sont des choses, ah là, ça, je fais quelque chose de bien. C'est tangible, ma religion. Peut-être je ne l'appellerai pas une religion, mais néanmoins, c'est une pratique presque religieuse. C'est ça, je pense que Samuel va dire. Mais peut-être vous vous dites, moi, le catholicisme, jamais de la vie, je n'aime pas tout ce qui est catholique. Mais je pense, parfois, on dit ça un peu trop vite. pour ne pas comprendre à quel point parfois le système catholique est impressionnant. D'être à la place Saint-Pierre lorsque le pape s'adresse à la foule, ce n'est pas rien, ça. C'est quelque chose. Là, j'appartiens à un monde tangible de personnes. Et tous ces beaux habits, peut-être que ce n'était pas ridicule pour moi si j'étais là dans une jupe. Comment ça s'appelle ? Voilà, tout ça. Et, c'est ridicule. Non, ce n'est pas aussi ridicule que ça. Parce qu'il y a. Il y a tout un système de signification derrière. Et une fois qu'on entre dedans, on commence à dire, ah oui, ça a du sens. Ça, je peux comprendre. Le symbolisme qui est derrière. Le sentiment de sérieux. Le sentiment de religiosité. Parfois, ça manque. Peut-être on pense dans nos milieux un peu de méditation. On fait pas ça. Eux, ils ont tout ça. D'être deux jours sans parler dans un monastère, parfois peut-être ça me fera du bien. Je pense que nous devons faire attention de ne pas minimaliser notre tendance éventuellement d'être impressionné par les choses visibles. Chez les protestants, c'est bien sûr peut-être plutôt dans le contexte charismatique à l'extrême. Nous sommes également impressionnés par l'œuvre de l'esprit, des manifestations de l'esprit. Ah, là, il y a quelque chose. Là, je vois que Dieu est à l'œuvre. Ah, je vais peut-être quitter toute cette action sur la Bible. Je veux plus Dieu à l'œuvre aujourd'hui. C'est ça ce qui me passionne. Nous sommes, en tant qu'êtres humains, des personnes qui sont attirées par des manifestations religieuses externes. Ils sont fascinés par le mystère, par le religieux. Ce qui a l'air d'être plus impressionnant d'un point de vue externe nous attire. Mais cet épître nous dit, faisons attention car en Jésus-Christ, nous avons ce qui est de loin supérieur à tout cela, à la religion humaine. Verset 6. Mais maintenant, il a accédé à un service d'autant plus remarquable qu'il est médiateur d'une alliance supérieure, fondée sur des promesses supérieures. Parler d'un service supérieur à celui des prêtres lévitiques implique un changement d'alliance. Pas juste un changement de prêtre, mais changement d'alliance. Ces lois concernent le sacerdoce lévitique, qui concerne le sacerdoce lévitique, font partie de cette alliance ancienne. Et remettre donc ces lois en question, c'est de remettre en question toute cette alliance qui précédait, n'est-ce pas? Au temps de Moïse, Dieu s'est engagé par une promesse formelle envers le peuple d'Israël d'être leur Dieu. Sous condition qu'à leur tour, eux, ils obéissaient à ces lois. C'était ce qu'on appelle l'alliance mosaïque, l'ancienne alliance. Mais, notre deuxième point, Jésus est médiateur d'une alliance supérieure. Une alliance supérieure, à tous égards, supérieure à l'ancienne alliance. Mais de nouveau, peut-être nous, on a du mal à imaginer ce que cela signifiait pour un peuple juif à l'époque, ou d'arrière-plan juif, d'entendre cela. Nous, on dit alliance, nous dit qu'alliance nouvelle. Pour finir, quelle est l'importance dans tout cela? Mais pour eux, d'entendre que l'alliance mosaïque arrive à sa fin avec l'arrivée de Jésus, c'était trop difficile dans un sens. C'était une catégorie trop difficile pour eux de comprendre parce que l'alliance mosaïque était considérée comme étant une alliance éternelle entre Dieu et son peuple. Rompre avec ça semblait être impossible. Ça semblait rompre avec la foi. Point. Peut-être un exemple, un tout petit exemple. Peut-être vous avez entendu parler qu'au Royaume-Uni, nous sommes préoccupés par le Brexit. Peut-être que vous n'avez rien entendu parler du Brexit, donc tant mieux pour vous. Le Brexit déchire, il semble, actuellement, le pays du Royaume-Uni. On n'arrive pas, les Britanniques, à se mettre d'accord de ce qu'il faut faire, à comment résoudre la difficulté que plus ou moins 50% étaient pour, plus ou moins 50% étaient contre. Et donc, on voit un pays actuellement qui se déchire sur ces questions-là. C'est triste à voir. Mais vous savez, c'est pour ceux qui veulent rester, et je ne vais pas déclarer si moi j'ai voulu rester, j'ai voulu voter contre, ça c'est pas important ici. Mais pour ceux qui veulent rester, c'est comme si c'est la fin du Royaume-Uni, de penser qu'on va plus rester dans l'Europe. Et tellement ils sont préoccupés par ça, il semble qu'ils sont prêts à tout faire pour qu'on puisse voter une nouvelle fois, pour essayer de contrer la première décision. Le Brexit met en danger une appartenance d'Angleterre ou du Royaume-Uni à l'Europe depuis 1972, donc ça fait 40 ans d'appartenance. Bien sûr, c'est quelque chose de conséquent. Mais à l'époque du Nouveau Testament, l'ancienne alliance est en vigueur depuis 1500 ans. Okay? Nous, 40 ans, et on se dit, oh, c'est la fin du monde. Okay? Maintenant, on propose de changer à peu près 1500 après que l'ancienne alliance termine. Et on va faire une nouvelle alliance. Donc dire tout simplement nous, aujourd'hui, ah oui, facile de dire que la nouvelle alliance est supérieure de l'ancienne. Mais dire ça à l'époque, c'était osé, mes amis. C'est quoi? Quoi? Ça termine? On va avec quelque chose de meilleur? Donc si aujourd'hui nous avons les deux parties dans nos livres, l'un nouveau, l'autre l'ancien, le mot testament, vous le savez sûrement, c'est une traduction en latin pour le mot pour alliance. C'est parce que le fondement de la foi chrétienne, que Jésus-Christ est venu instaurer la nouvelle alliance, le fondement pour ça, c'est l'ancienne alliance. Mais nous sommes chrétiens aujourd'hui, cela signifie que nous sommes le peuple de la nouvelle alliance. Nous avons un nouveau testament, le peuple juif, non pas le Nouveau Testament. C'est la nouvelle alliance qui fait de nous un chrétien. Que la Bible soit en deux parties, ce n'est pas parce qu'il s'agit de deux chapitres. Alors, premier chapitre, et puis deuxième chapitre. Tous les deux là, plus ou moins semblables. Ou deux volumes, je lis pour le moment où j'ai arrêté de lire. J'ai deux volumes d'une biographie de Hitler. C'est un tome comme ça, deux chaque volume. Et lire autant sur Hitler, ça devient un peu difficile à un moment donné. Donc, je n'ai pas pu arriver au deuxième volume. Mais on peut penser que la Bible, c'est comme ça, deux volumes. Non, ce n'est pas exactement cela. Un volume, le Nouveau Testament, contient ce qui est supérieur à l'autre volume, l'Ancien Testament. Ce n'est pas pour autant, bien entendu, chers amis, que les chrétiens négligent l'ancienne partie. Non. La nouvelle partie est bel et bien l'accomplissement de l'ancienne partie. Oui, l'ancienne en soi, l'ancienne partie, n'est pas suffisante. Il fallait la nouvelle pour que le plan du salut en Jésus-Christ, que l'ancienne partie préfigurée pouvait voir le jour. Et donc, l'ancienne partie de la Bible parle de la nouvelle partie. Voyons cela maintenant ici au verset 7, parce qu'à partir de ces versets-ci, nous allons citer donc l'Ancien Testament. Si en effet, verset 7, la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une seconde. C'est bien en effet comme un reproche à leur adresse qu'il dit Alors, maintenant, est-ce que moi, je suis perdu? Oui, voilà, pardon. Les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Et à partir maintenant du verset 8, il cite donc le prophète Jérémie de l'Ancien Testament. Et la citation de Jérémie, c'est la plus longue citation de l'Ancien Testament qui se trouve dans le Nouveau Testament. C'est donc important, car cela vise un avenir important pour le peuple de Dieu, pour la maison d'Israël et la maison de Juda, à qui s'attacheront des personnes de toutes les nations qui partagent la foi en Jésus-Christ. Et nous trouvons, je pense, dans cette prophétie de Jérémie, trois des promesses supérieures dont l'auteur parlait au verset 6. Donc vous allez voir cela sous le point B dans votre livret. D'abord, la loi inscrite sur le cœur. Ensuite, une connaissance réelle et universelle de Dieu. Et troisièmement, le pardon des péchés. Donc d'abord, la loi inscrite sur le cœur. Verset 9. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai faite avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Puisqu'eux-mêmes ne se sont pas demeurés dans mon alliance, moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Or, voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur intelligence, je les inscrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors, quel était le problème de l'ancienne alliance? Ils ne sont pas demeurés dans mon alliance. Verset 9. Exode, chapitre 24, verset 7, nous dit ceci. Moïse prit le livre de l'alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. Et quel était le problème? Ils n'ont pas obéi. Ils ont brisé cette alliance. Au lieu d'aimer Dieu, de lui obéir, ils l'ont rejeté. Au lieu de vivre sous les ailes du Seigneur qui les a chéris comme un père, ils sont entravés par le péché. Jérémie, quelques chapitres plus tôt, chapitre 17, verset 1, nous dit ceci. Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur. Et si ça est l'histoire de Juda, cela était également, appelons-nous, notre histoire. Que dit l'apôtre Paul à notre sujet en Romains chapitre 3? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Si nous voulons vivre pour la gloire de Dieu aujourd'hui, merci Seigneur, Benjamin avait évoqué cela, nous devons d'abord comprendre que comme le peuple de l'ancienne alliance, nous sommes privés de la gloire de Dieu parce que nous sommes pécheurs. Mais la gloire de cette nouvelle alliance, c'est que Dieu lui-même va transformer le cœur de l'homme. Alors comment va-t-il faire? Je mettrai mes lois dans leur intelligence, au verset 10. Je les inscrirai dans leur cœur. Oui, c'est vrai que la loi de Moïse parlait d'une circoncision du cœur, que le peuple de Dieu devait circoncire leur cœur, qu'il devait mettre dans leur cœur tout ce que le Seigneur les a prescrit. Mais il n'y arrivait pas, c'était ça le problème. Et nous n'y arrivons pas. Le premier commandement du Seigneur, c'est d'aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et nous sommes loin de faire cela. Nous sommes loin d'aimer Dieu comme il faut. Mais la merveille de la nouvelle alliance, c'est ce que nous sommes incapables de faire par nous-mêmes. Dieu accomplit cela pour nous. Oui, la nouvelle alliance permet que Dieu, par son esprit, fasse ce qu'on ne pouvait pas faire pour nous-mêmes. Une transformation de notre cœur. Jusque-là, si vous voulez, la loi de Dieu de l'Ancien Testament jouait un rôle de frein externe de nous pour limiter le dégât de mon cœur. Je vois que la loi me dit de me m'arrêter ici lorsque je conduis parce qu'il y a un croisement d'une rue. Alors, ça aide, même si j'ai envie de foncer et ne pas arrêter. Je vois que la loi dit que je dois m'arrêter. Ok, c'est une loi externe qui limite le dégât qui pourrait avoir lieu pour moi en roulant en voiture. Mais la nouvelle alliance ne joue pas juste un rôle externe pour limiter le dégât. La nouvelle alliance transforme le cœur humain. Donne, si vous voulez, une impulsion interne pour se soumettre à la loi de Dieu. Vous savez, nous avons chanté juste un temps, « Voici mon cœur, je te le tends jusqu'au ciel qu'il t'appartienne. » Et peut-être on chante cela en disant « C'est ça ce que j'aimerais soit le cas. » Mais si nous sommes bénéficiaires de la nouvelle alliance, Dieu, par son esprit, a agi dans notre cœur pour que notre cœur se tende vers la loi de Dieu, pour obéir et aimer notre Dieu. Oui, pas encore de manière parfaite, mes amis. Parce que peut-être ici, vous dites, bah, écoute, si ça c'est le cas, pourquoi est-ce que je n'aime pas Dieu parfaitement comme je devrais? Non, nous avons aussi chanté, nous sommes prêts à chuter. Ça c'est vrai. Mais cela n'enlève pas la réalité sous la nouvelle alliance que Dieu a agi dans notre cœur pour nous tourner vers Dieu. Est-ce que vous pouvez témoigner de cela? Cette nouvelle attitude envers Dieu. Oui, l'obéissance, ce n'est pas encore parfaite, mais nous connaissons ce que c'est de vouloir se soumettre à Dieu. Ça, c'est la nouvelle alliance. Le désir, la soif, la joie d'obéir à Dieu. Mais où est-ce que vous êtes toujours là, sous contrainte? Peut-être contrainte de quelqu'un d'autre, mais peut-être votre propre contrainte. Oui, je sais, je dois le faire, donc je suis là. Je suis là parce que je dois le faire. Si c'est le cas, mes amis, vous devez encore apprendre la merveille de la nouvelle alliance. Que Dieu peut entrer dans votre propre cœur par sa grâce pour que vous ayez un autre regard de ce que c'est de servir le Seigneur. Non pas parce que vous le devez, mais parce que vous êtes émerveillés. Que vous suivez Jésus-Christ qui, lui, a obéi parfaitement la loi. Et ainsi, il est votre justification. Il est celui qui est parfait, qui vous permet d'être pardonné par Dieu et qui vous libère pour servir le Seigneur. Est-ce que vous connaissez ça? Mes amis, soyons honnêtes si ce n'est pas encore le cas. Prenez le temps, même ce week-end, de demander à Dieu d'œuvrer ce miracle de nouvelle naissance en vous-même. Quand nous savons, grâce à cette opération divine, que nous appartenons à Dieu. Le mot phare de l'alliance, « Je serai le Dieu », ils seront mon peuple, c'était ce qu'il y avait lorsque la première alliance avait été donnée à Abraham. Ces mots-là, maintenant, s'appliquent à nous de l'intérieur. « Je serai le Dieu », ils seront mon peuple. Seuls les bénéficiaires de la nouvelle alliance pourraient en témoigner. On va sauter Ézéchiel 19 à 20, chapitre 11, verset 19 à 20, qui donne de nouveau un regard de ce que c'est d'avoir ce cœur transformé. Mais si c'est vrai dans le passé qu'il y avait de temps en temps des personnes qui aimaient Dieu, des David, des Josué, des Job, des Moïse, ces personnes étaient plutôt des exceptions. Ça n'appliquait pas à tous. Mais la deuxième promesse de la nouvelle alliance, c'est quoi? C'est qu'il va y avoir une connaissance réelle et universelle de Dieu, de la part de tout participant de cette nouvelle alliance. Verset 11, « Personne n'instruira plus jamais son concitoyen, ni personne son frère, en disant « Connais le Seigneur ». En effet, tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. » Oui, ce qui est frappant, c'est que tous me connaîtront. Non seulement les grands personnages bibliques, peut-être avec une étiquette que nous avons mis sur le front. Ah, ça, c'était des grandes personnes qui connaissaient Dieu. Non, mais tous connaîtront le Seigneur. Dans l'Ancien Testament, c'était les dirigeants du peuple d'Israël, les rois, les prophètes, les prêtres, les juges, qui avaient été accordés une connaissance intime de Dieu. Et en fonction de leur obéissance, ces personnes importantes, le peuple aussi en soit bénéficié, soit subi sous l'influence de leur chef. La connaissance de Dieu dans l'Ancien Testament n'était pas encore assurée. Il y avait au sein d'Israël un reste qui connaissait eux le Seigneur, mais il y avait aussi Israël, comme on dit, de la chair. C'est ainsi que l'Ancien Testament peut dire, et ici j'ai mis Juges 2, verset 10, et Osée 4, verset 1. Donc Juges 2, verset 10, disait quoi? « Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. » Donc ils avaient perdu la connaissance de Dieu. Osée chapitre 4, verset 1. Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Je pense, pour notre bien, juste pour le temps qui nous reste, que ce serait bien qu'on redescende avec les enfants, sinon nous serons toujours un peu avec le regard là-bas. Donc, Fab, s'il y a moyen qu'on les redescend, je pense que ce serait utile. Je vois la moitié de la salle en train de regarder les enfants. On peut nous arrêter là, mais je pense que ça va nous aider si les enfants descendent encore pour 5 minutes et puis on va terminer après. Merci. Merci, Philippe. C'est gentil. Donc, il n'y a point de connaissance de Dieu dans le pays d'après Osée. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, tous me connaîtront. Tous me connaîtront. Car la connaissance ne viendra plus grâce à l'intermédiaire du roi ou du prophète, du juge ou du prêtre, mais tous auront une connaissance personnelle de Dieu grâce à l'intermédiaire de Jésus-Christ. Donc, je ne suis pas en train de dire que des enseignants de l'Église ne sont plus nécessaires. Est-ce que je ne devrais pas être ici devant vous ce matin parce que tous connaîtront le Seigneur, pas besoin de moi. Non, il existe un genre de chrétien, je pense, qui n'a plus rien à apprendre, qui est trop fier de là où il se trouve. Il a déjà toute connaissance, donc pas besoin d'être à l'Église locale, pas besoin d'entendre des messages de la part de Dieu. Non, là, eux, ils se trompent. Ceux qui connaissent le Seigneur doivent grandir en connaissance. Mais néanmoins, chaque membre de la Nouvelle Alliance a une connaissance intime de Dieu grâce à Jésus. Nous lui faisons confiance, nous obéissons à Jésus-Christ, nous le reconnaissons comme notre sauveur personnel. Ça, c'est le témoignage de chaque chrétien. Plus besoin donc d'un autre prêtre pour pardonner mes péchés, pour connaître Dieu. Jésus seul est notre intermédiaire avec Dieu. Et cela nous mène donc à cette dernière promesse, un pardon définitif pour les péchés. Verset 12, « Quand je me ferai grâce de leurs injustices, je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés. » Vous me direz, n'y avait-il pas le pardon des péchés sur l'ancienne alliance? Oui, ceux qui détournaient de la mauvaise voie recevaient pardon de la part de Dieu. Ça, c'est vrai. David commettait l'adultère, mais néanmoins, il trouvait pardon auprès du Seigneur. Mais le problème, c'est que le système incessant, on reviendra à cela cet après-midi, de sacrifice nécessaire pour le pardon des péchés, signifiait qu'au lieu d'être réellement effacé, le péché n'était simplement pas pris en considération par Dieu. Car tôt ou tard, le péché des uns et des autres, continuel, avait un impact sur la relation du croyant avec Dieu. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Mais sous la nouvelle alliance, on ne peut pas plus menacer le statut du peuple de Dieu, car Dieu ne se souviendra plus jamais de leur péché. Cette alliance, vous voyez, est nouvelle. Elle ne peut pas être brisée par l'homme, par son péché. Dieu a définitivement pardonné nos péchés en Jésus-Christ. Cela, nous le verrons cet après-midi, grâce au sacrifice de Jésus à la croix. Donc, trois raisons qui expliquent pourquoi la nouvelle alliance est nouvelle. La raison pour laquelle, donc, la première alliance est ancienne. Verset 13, il tire sa conclusion en l'appelant nouvelle. Il a rendu ancienne la première. Or, ce qui est ancien et vieilli est en passe de disparaître. Oui, maintenant nous sommes dans cette nouvelle phase après Jésus-Christ de la nouvelle alliance. Déjà à l'époque de Jérémie, la première alliance est en passe de disparaître. Elle est disparue lors du moment du sacrifice définitif de Jésus-Christ à la croix. Elle avait l'ancienne alliance en utilité dans son temps, mais plus maintenant. Plus maintenant dans le sens où quelque chose de meilleur est venu. Nous continuons à lire, à apprendre de l'ancienne alliance, parce que ça nous aide à comprendre l'accomplissement dans la nouvelle alliance. Mais je ne mange plus rien qu'ici, okay, sous l'ancienne alliance. Quand j'ouvre le frigo chez moi, est-ce que Doun est avec nous? Je pense qu'elle est en bas, on sait bien. Moi, j'aime manger du yaourt, yaourt nature grec. C'est pas bien la partie grecque parce que c'est y a trop de gras là-dedans. Mais s'il n'y avait pas ça, je ne mangerais pas le yaourt. Donc, ça, c'est une lutte personnelle. mais je dois faire attention avec le yaourt chez nous. J'ai une épouse avec beaucoup de qualités et qui n'aime pas. Je sais que Mike a des difficultés quand je mentionne Don en public parce que parfois, pour taquiner, je donne un regard pas toujours aussi positif que je devrais faire. Donc, Mike, tu me pardonnes pour ceci. J'apprécie énormément mon épouse, tu le sais. Mais, donc, l'une de ses qualités, c'est de ne pas trop jeter des choses dans la poubelle. Okay? Nous, on a beaucoup de ramequins à la maison. Et moi, j'achète souvent, une fois par an, une vingtaine de ramequins. On pense qu'enfin, on aura suffisamment de ramequins. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a deux frigos chez nous et on a une quarantaine de ramequins, des petits resquis qui se trouvent dans le frigo. J'exagère, bien sûr, j'exagère. Ce que moi, je fais, quand je prends un yaourt dans le frigo, je jette un coup d'œil d'office dès le début sur la date limite. Okay? Donc, aujourd'hui, nous sommes le 27. Disons que la date limite, c'était le 25 ou le 24 ou le 23. Même moi, j'essaie de regarder. Je dis, bon, écoute, je pense que ça va. Oui, c'est bon, je peux encore le prendre. Mais je peux trouver facilement des yaourts avec une date limite. Disons, du premier du mois, on est le 27, ou peut-être d'il y a un an ou deux qui restent quelque part dans le frigo. Okay? Je peux trouver facilement des yaourts périmés. Évidemment, il y a un mois, le yaourt était bon. Mais aujourd'hui, ce n'est plus bon. Son utilité n'est plus bonne. C'était bon, mais ce n'est plus bon. Okay? L'ancienne alliance était bonne. Mais sans Jésus-Christ, elle n'est plus bonne. La date limite est passée. Que faisons-nous? Pourquoi pensons-nous revenir en arrière vers tout ce qui est tangible, tout ce système-là, vu que la date limite est passée? Maintenant, nous avons quelque chose de bien meilleur que le yaourt grec. Okay? C'est ça, le frigo maintenant est rempli de, je ne sais pas, de chocolat, etc. On peut se régaler avec ce que nous avons. Revenir vers tout ce qui nous impressionne avec nos yeux. Ce serait comme si on voulait investir aujourd'hui dans des DVD, des CD, lors d'une ère digitale. Ce serait ridicule de pouvoir investir en quelque chose qui est dépassé. C'est fini cette époque des DVD, des CD. Maintenant, il faut aller plutôt vers le digital. Donc, l'ancienne alliance n'est pas une religion à jour. Non pas, parce que l'ancienne alliance parle du péché. Non pas parce qu'il y a des sacrifices dans l'ancienne alliance. Mais parce qu'ils ignorent qu'il y a un sacrifice bien meilleur. Qu'il y ait un pardon définitif pour les pécheurs. Qu'il y a une connaissance profonde du Seigneur pour chaque personne qui se tourne vers lui. Est-ce que vous connaissez le privilège de cette nouvelle alliance? En Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ permet ces trois privilèges. Donc si vous luttez avec la foi, si vous vous sentez fatigué, si vous êtes accablé par la tentation et des difficultés, prenez des reculs. Soyez aimés parce que nous avons dans cette nouvelle alliance. À la fin de ce film, Discours du roi, une fois qu'Albert, à travers ses séances avec son logopède, commence à se rendre compte de combien il est privilégié, cela pousse le roi à vouloir mieux comprendre son peuple, mieux représenter la royauté au public. Ce qui fait qu'une fois qu'il devient roi, l'Angleterre hérite donc à ce moment-là, George VI, qui a un rapport plus proche avec son peuple. Connaître les privilèges inestimables de la nouvelle alliance nous équipe à notre tour à mieux communiquer ces privilèges aux autres, à mieux comprendre à quel point nous pouvons encourager les autres à marcher dans la foi chrétienne, à persévérer, quoique nous avons sur notre assiette. Prions ensemble, chers amis. Merci Seigneur pour cette nouvelle alliance. Merci pour Jésus, médiateur d'une alliance supérieure, fondée sur des promesses supérieures. Merci que la loi aujourd'hui est inscrite sur notre cœur. Merci que nous avons une connaissance de toi, intime, profonde, réelle, grâce à Jésus-Christ. Et merci Seigneur qu'il y a un pardon définitif pour les péchés. Aide-nous à encore réfléchir, encore sonder les profondeurs de ces réalités. Aide-nous à avoir une foi chrétienne qui est solide, qui ne bouge pas parce que nous sommes persuadés que ce que nous avons en Jésus-Christ est bien supérieur à ce que tous les autres peuvent avoir. Donc, sois avec nous, nous te prions, glorifie ton nom en nous tout au long de ce week-end. Et c'est au nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Je pense, si on a le temps, sans que ça me donne une minute devant, on peut terminer avec un chant. Si on peut faire comme ça, Sam? Très bien. On va chanter un dernier chant pour réchauffer le cœur par rapport à ces vérités que nous avons vues. Je pense que c'est devant le trône, qui parle de notre confiance, de ces bénédictions gagnées pour nous. La nouvelle alliance. Donc, mettons-nous une terminons dans cette séance de ce matin. Après, ce serait Maïva qui nous donne quelques indications pour la suite du programme. Et puis, on partage un moment ensemble avant de manger. Chantons.